1, 2, 1, 2. Bonsoir, bienvenue sur Radio Galère 88.4 pour la suite de nos aventures en quête d'un cinéma. Alors aujourd'hui, on va parler du son et d'une leçon de cinéma avec nos invités Yann, Fateh, Jean-Marie, Wahib. On vous souhaite une bonne émission. Tranquillement, doucement, on commence par une petite parole de notre ami Kateb Yassine.
Avant l'indépendance, et même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent que c'est Albert Camus. Et il est vrai que pendant longtemps, Albert Camus a représenté ce qu'on a appelé l'école d'Alger. Et c'était un homme de gauche. Simplement, les Français qui connaissent Camus, peut-être le connaîtraient mieux, le comprendraient mieux, s'ils le comparaient à un autre écrivain qui s'est trouvé dans la même situation, un écrivain américain, un grand écrivain, un autre prix Nobel comme Camus, c'est William Faulkner. Voilà, là nous avons deux écrivains qui naissent dans des conditions à peu près semblables. Et on peut dire que Camus était d'origine plus modeste même. Enfin, Faulkner était un fils de colon dans le sud des États-Unis. Il était dans la même position à peu près, dans la même situation fausse, c'est-à-dire il vivait parmi les Algériens, Faulkner vivait parmi les Noirs du sud des États-Unis. La grande différence, c'est que Faulkner parlait la langue des Noirs. Il emploie même dans ses livres l'argot des Noirs des États-Unis. Il les connaissait. Il était resté raciste. Il avait des relents racistes. Mais dans ses livres, il se débattait avec ses nègres, avec ses Noirs. Il essayait de les comprendre. Et il les comprenait souvent. Et ça ne l'empêchait pas de les haïr. Par contre, chez Camus, d'un côté, il était pour nous, pas pour l'indépendance, mais enfin, pour les indigènes, pour être moins brutal, moins raciste. Mais c'était au fond une position morale. Seulement morale. Parce que dans l'œuvre de Camus, on peut voir facilement que les plus belles pages de Camus, c'est quoi? C'est Tipaza, c'est la plage, c'est le paysage, l'Algérie est belle. Mais il n'y a pas de peuple, on ne voit pas le peuple algérien. Dans les livres de Camus, le peuple algérien est pratiquement inexistant. C'est très révélateur. Si on prend deux livres, l'un de Camus et l'un de Faulkner, on peut prendre par exemple L'étranger de Camus et Lumière d'août de Faulkner, qui peuvent très bien être comparés ici. Dans L'étranger, le personnage algérien, le seul, je crois qu'il s'appelle Saïd, c'est à peine s'il existe. On le voit tout juste, je ne sais même pas s'il dit quelques mots, et hop, il meurt d'un coup de soleil, plus de Saïd, plus d'Algérien. Et tout le reste, c'est l'Algérie française, c'est pas l'Algérie. Par contre, dans Lumière d'août, Faulkner trace le portrait d'un nègre assassin qu'il charge avec haine, même en sang, qu'il se bat avec ce nègre dans son livre. Mais ce nègre-là domine le livre. Et là, on sent vraiment un travail d'écrivain, un grand écrivain, parce qu'il savait de quoi il parlait. Et le grand malentendu, c'est ça, justement, ici en Algérie, il était impossible. Surtout aux écrivains, il y a peut-être eu des exceptions, mais dans l'ensemble, ça reposait avant tout sur une illusion, un malentendu, une situation fausse, puisque Camus vivait toujours parmi les Européens. Il n'avait aucune ouverture, et je dirais même, on pourrait l'accuser, mais il ne faut pas non plus tomber dans une autre position morale. En fait, il n'y avait pas la curiosité la plus élémentaire pour la vie de ce peuple, pour sa langue. C'était, sa vision du peuple algérien était une vision très rudimentaire, très lointaine. Et par là même, ça a infirmé son œuvre. Mais on l'a vu d'ailleurs très curieusement pendant la guerre d'Algérie. Alors pendant la guerre d'Algérie, il a eu une position morale assez courageuse, puisque les pieds noirs lui ont jeté des tomates, il voulait même les tuer. Bon, c'est vrai. Mais d'un autre côté, à un moment donné, lorsqu'il a eu le prix Nobel, il a eu une parole révélatrice. Et à un moment donné, juste après la remise du prix, il y a eu une conférence, il y a eu des journalistes. On lui a posé la question, parce que sa mère était encore ici. Sa mère était encore en Algérie pendant la guerre. Et il en est arrivé à dire, moi, si je dois choisir entre l'Algérie et ma mère, je choisis ma mère. Et à ce moment-là, dans la salle, il y a justement un homme saïd, comme le personnage qu'il a tué dans son roman, c'est très curieux. C'est un travailleur algérien qui travaillait là-bas, en Suède, qui se trouvait dans le public, et qui lui a dit, moi je ferai pas la différence entre l'Algérie et ma mère. C'est-à-dire, quand on se sent algérien, on ne reviendrait pas à l'idée, il ne pourrait pas venir à l'idée d'un Algérien de dissocier sa mère d'Algérie. Voilà le drame, il est là.
Voilà.
C'est pourquoi, il faut quand même...
Un petit extrait d'un interview de Kateb Yassine. L'émission commence. Voilà, je voulais commencer par cet extrait. C'est de la littérature, mais bon, la littérature, le cinéma, c'est proche. Et je voulais commencer par cet extrait parce que je trouvais que dans cet extrait où Kateb Yassine faisait un parallèle entre la façon d'écrire de Camus et la façon d'écrire de Faulkner, pour moi, ça parle aussi de cinéma. Voilà, c'était pour commencer là-dessus. Alors, mes invités, je crois que c'est bientôt à vous, c'est même à vous, de réagir, de rebondir. Voilà, on commence.
Ben, je vais bien prendre la parole si je suis bien à l'antenne. Merci, amis auditeurs. On vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que le soleil ne fait pas souffrir nos âmes. C'est un peu sérieux comme émission pour une période où les gens ont besoin de plus de distractions, mais allons-y, puisqu'on parle de peuple. On n'est pas simplement des peuples de vacanciers, mais disons, à chaque instant, on mérite qu'on s'assoie un peu à nous-mêmes et à réfléchir à des choses peut-être sérieuses, moins sérieuses. C'est vrai que on est un peu surpris de ce passage, comme à chaque fois, de Kateb et les oppositions qu'il a eues très souvent avec Camus. Mais par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, qui est leçon de cinéma, je ne sais pas s'il y a une leçon vraiment à en tirer de ce discours, disons, presque nationaliste, comme M. Kateb, il attaque M. Camus, qui est son confrère de plume, étant raciste. Ben moi, je traiterais Kateb de nationaliste, puisque c'est simplement des degrés des nuances dans le langage qu'on peut peut-être pas très souvent maîtriser, et ainsi on risque de poser des étiquettes qui peuvent nous renvoyer à nos propres illogismes de syntaxe, je dirais, ou autre, et on risque de se gourer d'ennemis. Camus, n'a jamais été l'ennemi de l'Algérie, ni des Algériens, ni même d'un auteur comme Kateb, mais simplement peut-être les circonstances ont fait que ces deux hommes ne se sont jamais liés d'une amitié intellectuelle quelconque, puisque, en effet, l'Algérie était dans un drame, était en guerre, et qu'en période de guerre, comme ou autre, ou au moment où il n'y a pas de paix, on a souvent tendance à plutôt préférer son clan.
Mais je ne pense pas que Kateb parle de Camus directement. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que Kateb parle de l'image que l'on donne ou que l'on a de Camus, en disant Camus, c'est un auteur algérien. C'est-à-dire, moi, je sais que j'étais en Algérie en 2009-2010. Par exemple, on célèbre l'année de l'Algérie en Algérie. Ben, on va le faire autour de Camus. On ne parlera pas de Kateb. Et je pense que ça se situe à ce niveau-là, quoi. C'est une... replacer les choses où elles sont plutôt que qu'attaquer Camus en soi, quoi.
Et puis les rôles habituels aussi qu'ont toujours eu les indigènes dans les films, dans la littérature, c'est vrai, on les entend jamais, quoi. Ils sont toujours là pour dire oui ou pour dire non. C'est toujours l'arabe de service, c'est l'indigène, quoi. Et il y a toujours ça dans tout. C'est pas nouveau, quoi, qu'on critique justement la littérature française par rapport à ça, par rapport à comment est situé l'indigène dans l'histoire, et toujours relayé au cinquième plan.
Il y a aussi un truc, c'est que là, sur le son, on entend des choses qui sont à une époque. Moi, je ne connais ni Camus, ni Yacine, mais d'origine vietnamienne, donc de guerre, de colonie. On a une interprétation de deux hommes qui sont dans la lutte pour un camp, et qu'aujourd'hui, on voit bien que ce camp est en train de se dilater. Donc ce discours n'a plus tellement lieu aujourd'hui. Les politiques le remettent systématiquement sur le tapis, mais ça les arrange pour justement tous ces pays ex-pays colonisés et donc indigènes restent à leur place, sauf que les indigènes ils grandissent, ils ont gagné leur autonomie, et donc ça n'empêche pas que ce soit deux grands écrivains, mais qui sont pris dans des luttes intestines où chacun défend son
nationalisme, comme disait Wave.
Ouais, son nationalisme, parce qu'à l'époque c'était ça, c'est l'appartenance à, c'est les grandes guerres de colonies, c'est aujourd'hui nous issus de l'immigration ou de réfugiés, quel que soit le pays, on est plus là à dire qu'on tend la main aux Occidentaux et qu'on efface un peu cette histoire pour repartir sur une autre histoire où on va appartenir à cette histoire. Et donc le son dans l'interprétation qu'on peut avoir de c'est bien l'écoute et la retranscription qu'on a et les uns et les autres sur cette période, comme on est deux cultures différentes et d'âges différents aussi, on n'a pas la même lecture. Et donc ce qu'on entend peut nous renvoyer à nos origines, à notre propre culture, et puis aussi d'où on vient.
Puis dans le son là de la voix de Kateb Yacine aussi, elle a, au-delà de l'opposition entre voilà, Camus et puis Faulkner, là, c'est lui aussi, je trouve. Et là, pour le coup, dans le cinéma où il explore quelque chose, quoi. Mais sa voix, son rapport à l'idée de Camus et son rapport au travail de Faulkner, quoi. Et sa voix, là, moi, je la sens en tout cas, qui est en train d'essayer de construire quelque chose, quoi. Alors, bon, après, dans son, entre guillemets, dans son quotidien et littéraire, il est confronté à ses écrivains, quoi. Donc probablement qu'il ne se reconnaît pas dans Camus et qui perçoit quelque chose chez Faulkner. Je trouve ça intéressant, quoi, parce que lui aussi, ça lui permet de construire quelque chose dans sa visée
et puis dans le temps.
D'écrivain. Voilà,
et ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection d'Obama. Hormis le fait que ce soit un président américain, c'est une avancée extraordinaire. Ceci dit, c'est-à-dire le rapport des colons blancs aux États-Unis et aux Noirs, qui a été un combat farouche, dont les Indiens ont été les victimes, en fait. On voit bien qu'il y a une avancée extraordinaire aux États-Unis sur la question du racisme et du colonialisme. Il dit bien le rapport de Faulkner, le personnage du noir, il existe. Alors que c'est vrai que la France et Camus peut être un de ses représentants, l'in-représentant, ça paraît très important. On voit bien que la France a un recul phénoménal là-dessus, sur sa propre histoire à la colonie, et donc comment on vit avec tout ce métissage et toutes ces cultures qui sont d'issue française.
Parce que moi personnellement, pour revenir à cet extrait sonore, ce passage où encore une fois Kateb il condamne son confrère de l'écriture, le rôle de l'écrivain, c'est quoi? C'est d'être témoin, comme il dit Camus, c'est l'historien de l'instant. Il doit décrire, d'accord. Kateb, c'est un écrivain algérien. Mais est-ce que pour autant l'Algérie, c'est un seul peuple? Je pense pas.
Non, mais
c'est c'est d'ailleurs en tant que Kabyle, il se reconnaîtra pas dans certains.
Non, mais c'est des discours universels. Mais ce discours universel, parle au nom, puisqu'il parle des Noirs, il parle pas de l'Algérie, il parle de l'étranger de Camus. Mais Kateb est beaucoup plus universel dans le sens où la défense de l'indigène que nos parents, nos grands-parents étaient, et que Camus défend une position qui n'est pas encore bien comprise dans le colonialisme français, c'est-à-dire que on n'a pas fait le deuil de cette histoire-là. La France a beaucoup de mal à faire le deuil de cette histoire-là. Et on en parle très très peu. Et d'ailleurs, il y a très très peu de films de toutes les années 60 et 70 que ça a engendré ici en France. Et pourquoi aujourd'hui il y a une explosion d'une civilisation française, hein, des deuxième ou troisième générations, parce que le problème n'a pas été. Il n'y a pas eu de psychanalyse sur ce que l'État français, contraire à l'Espagne, un peu l'Angleterre, conseiller de comprendre cette histoire, le Portugal aussi, qui était une grande puissance coloniale.
Mais moi, dans cet extrait aussi, ce que je lis derrière, pour ça que je voulais commencer cet extrait, pour avoir la prétention de faire une leçon de cinéma, on va dire, mais c'était la question qu'au-delà de la question... c'est que pour moi, Kateb, ce qu'il disait derrière ça, c'est qu'il disait l'importance de savoir d'où on est pour pouvoir parler des choses. Et pour moi, c'est ça que... Je sais que dans les films contemporains que je vois beaucoup, c'est là où il y a quelque chose qui, chaque fois, me dérange, on va dire. C'est-à-dire que des gens se mettent à un endroit en disant que de cet endroit, ils vont pouvoir parler de ça, et finalement, ils parlent de ça sans se mettre à cet endroit. Ce qui fait que ça... Et tu sais, on en a vu au film, par exemple, le film qui a été primé, Babylone, que toi, t'as vu, que moi, j'ai pas vu. Mais quand je t'ai posé la question de ce que tu as vu, tu me dis, bah, oui, on voit des moutons. Et pourtant, ces gens, c'est des gens, c'est un film qui est à la frontière entre l'Égypte, un camp de réfugiés à la frontière entre l'Égypte et la Syrie. Et des Égyptiens viennent faire un film sur ce camp où il y a toute une vie, comme on peut l'imaginer, où il y a du cinéma partout, quoi. Donc, c'est des Égyptiens qui le filment. Donc, ils filment des... Mais, tu vois, c'est des films comme ça qui, pour moi, me ramènent à la phrase de Kateb dans ce sens-là. Il faut au cinéma dire où on est pour pouvoir filmer.
Voilà, tu veux dire que cette tranche de réalisateurs qu'on a vu au FIT, ça ressemble plus à des réalisateurs d'origine, sauf qu'ils sont acculturés à la culture française occidentale.
Oui, voilà.
Et donc finalement, moi, ce que j'ai vu aussi lourd dans ce festival de cette année au FIT, j'ai vu que dans la programmation, il y a une ligne très oppressante, il y a une ligne directrice, il y a des choix qui sont très précis sur des films qui n'ont pas encore décompté. Les réalisateurs ne sont pas encore assouvis, n'ont pas encore été jusqu'au bout de leur film documentaire. Je dirais, c'est du reportage. Babylone, pour moi, c'est pas du documentaire. Et c'est là la confusion que j'ai vue qui m'a vraiment un peu, pas seulement étonné, mais qui m'a frustré. Parce que on ne peut pas traiter une situation prétendant qu'un film soit un documentaire alors qu'il ne l'est pas. Ce n'est pas dans le même registre. Et donc, c'est les réalisateurs qui sont acculturés à l'occidental et qui reviennent en découdre avec la situation actuelle dans leur propre pays d'origine. Je dirais c'est l'équivalent de Camus dans l'histoire, dans son histoire algérienne. Moi aussi, j'en ai des pieds noirs. Que j'essaie de rattraper, mais que je ne traite pas de racistes, parce qu'ils ont une forme de distance par rapport aux indigènes, comme dit Anne. Pour moi, non. Il y a encore un choc qui n'est pas. Il y a encore des blessures, il y a encore un passé. Moi, quand je vois mes pieds noirs revenir dans leur cité, ils sont déchirés autant que les locaux. Pourquoi ils sont déchirés? Parce qu'ils n'ont pas encore accepté cette séparation brutale qui les a forcés. C'est pas les gens par eux-mêmes qui ont décidé du jour au lendemain de prendre leur valise et de se casser ailleurs. Non, c'est parce que la situation, la condition historique a fait d'eux des victimes d'une histoire confisquée. C'est encore en eux, c'est encore un passé qui est présent. Et ces réalisateurs qui reviennent là-bas pour tourner leur premier film documentaire et qu'ils n'en aboutissent pas jusqu'au bout, qu'ils arrêtent juste au moment du reporter, parce que pour moi, c'est des films de repérage, c'est pas des films documentaires, ce que j'ai vu pour la plupart. Et donc derrière, je dis qu'il y a une commande qui voulait nous montrer cette situation de révolution arabe de cette manière-là. Et c'est pas le cas de toute de toutes les contrées de toute l'Arabie. C'est pas toute la révolution arabe que nous montre un peu la tranche de film qu'on a vu. Et donc, pour revenir à Monsieur Camus et Monsieur Kateb, c'est une histoire qui ne sera jamais résolue. Pourquoi ? Parce que et l'un et l'autre sont restés dans leur clan. Comme il le dit bien, Kateb, quand il dit que Camus, oui, il a choisi. Pas l'Algérie, il a choisi sa mère. Et puis, peut-être parce que lui aussi, M. Camus, il est victime d'une chose qui s'appelle la médiatisation, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, d'acteurs, de cinéastes, d'intellectuels, qui ont des choses à dire, malheureusement, quand on leur donne l'occasion de le dire, ils se trouvent face à la force des mots. Ce qui est la leçon première en littérature. En cinéma, c'est la force des images, parce que l'image, elle se joue de nous. C'est simplement une question de dosage. Est-ce qu'on la montre ou est-ce qu'on la coupe? Et à cet endroit-là, je pense que ni Camus ni Kateb n'ont encore résolu cette question historique qui les oppose.
Et pour autant, moi je trouve dans ce qu'il dit, il pose quand même quelque chose d'important, quoi. Ou en faisant référence à Faulkner aussi, qui apparemment est étranger à une situation, dans la situation qu'il va rencontrer, il perçoit quelque chose qui résonne avec ça. Avec aussi ses interrogations, quand même. Voilà. Il va creuser dans ce filon-là, quoi. Et moi, je trouve que le son, quoi, en cinéma, c'est vraiment cette notion-là, quoi, de trouver des espaces dans lesquels tu puisses raisonner, et ensuite tu découvres la situation. Voilà, mais au début tu peux débarquer étranger et puis explorer. Voilà.
Non, mais c'est pas donné à tout le monde d'explorer. C'est-à-dire quand moi je n'appartiens pas à ce monde d'intellectuel, j'appartiens au peuple, plutôt, à ceux qui subissent ces images. Et là, on parle d'intellectuels, comme tous ces documentaires, qui veulent démontrer une situation qui leur échappe, parce que, comme tu dis, l'eau, savoir de quel endroit tu filmes et où tu te places quand tu filmes ou quand tu prends des sons, c'est difficile. Quand tu n'as aucun lien avec cette histoire, tu ne peux être que voyeur d'une histoire qui t'échappe, et donc interpréter des choses qui sont quand même délicates. L'impérialisme, le colonialisme, toutes ces guerres et tous ces exodes et ces exils ont mis les gens hors culture. Et donc quand nous on parle de Camus, de Faulkner, la plupart des gens, et ils sont loin d'être bêtes, se détachent de ce discours de plus en plus. Donc de plus en plus ces documentaires et qui ne redonnent pas au peuple, à tous les peuples, qu'ils soient français ou qu'ils soient algériens ou qu'ils soient vietnamiens, qui ne redonne pas cette histoire lisible par le plus grand nombre, pour moi c'est raté. C'est-à-dire que la plupart des intellectuels se sont confinés dans des petits fauteuils en parlant, comme ça, en se donnant des prix littéraires, des prix de toutes sortes. Et donc on peut parler indéfiniment de racisme. Or aujourd'hui la question est autre part. Il y a un peuple ou des peuples qui sont en souffrance par l'exclusion, par tout un système. Et puis il y a des petites corporations comme ça qui disent nous on va parler de vous, vous inquiétez pas, on est là. Or on voit bien que la situation se dégrade. Mais dans cette dégradation, il y a des choses très intéressantes. C'est que les peuples se soulèvent en Égypte où ce n'est pas une révolution. Il n'y a aucun leader qui représente cette révolution. Aucun journaliste ne peut donner des mots sur ce qui se passe. C'est les peuples qui ont trouvé une nouvelle forme de réaction. Et je pense que les intellectuels, intellectuels ou cinéastes ou preneurs de son ou ce que tu veux, doivent être présents pour définir cette réalité-là, comme des journalistes ont été présents dans la guerre d'Algérie, dans la guerre du Vietnam, pour montrer réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'est que dans la fiction. Tous les documentaires qu'on nous montre, c'est tout fictionnalisé. C'est une interprétation de ce qu'on veut faire, de ce qu'on voudrait dire, mais qu'on a du mal à le dire, donc on biaise un peu sur des choses, et on meuble le tout, on enrobe le tout avec des grandes idées intellectuelles qui fait que ça convient au petit nombre, mais pas au plus grand nombre.
Ça me rappelle comme ça des films où... Où en fait t'es dans le tout le temps en fait dans le discours quoi, voilà. Et je pense que c'était plus pour le coup pour répondre à une commande quoi, voilà. Et que
c'est la notion de production,
ça dénature
le marché,
voilà.
Non, là t'as évoqué les termes fiction, donc c'est pour toi tu fais une distinction entre fiction documentaire, c'est laquelle? Ou comment tu...
C'est-à-dire, tout ce que je vois, ou quand moi, je suis preneur de son, je me définis comme preneur de son, quand on me demande des sons, c'est juste à mon interprétation. Si on met un micro, là, on parle, c'est mon âme qui parle, c'est de parler avec sincérité. Mais quand on me met en situation, on me filme, par exemple, on mettrait une caméra, là, je serai quelqu'un d'autre. Donc déjà la fiction elle part dès l'instant où tu recrées un environnement pour faire exister un scénario, un film qui soit documentaire ou une fiction. Le débat c'est il n'y a plus dans le documentaire un documentaire du réel, je ne sais pas ce que ça veut dire. On montre un troupeau de vaches, c'est à l'interprétation du réalisateur de s'il n'est pas du tout paysan, il va montrer une certaine réalité. Si tu montres le marché de c'est pas Belzin, le grand marché là.
Les Arnavaux.
Voilà. Je défie, on devrait faire un documentaire là-dessus. Pour montrer vraiment ce que tu prends 6 réalisateurs et tu verras que tu auras des choses étonnantes. Chacun mettra en scène cette vision de ce marché-là, avec ses propres connaissances, sa propre culture. Et donc du coup, ça pose la question du documentaire réel, on veut toujours faire passer des choses. Et des fois, il faut forcer un peu le côté réel pour que... Parce que comme on prend souvent les gens pour des idiots, on dit il faut qu'ils comprennent, là ils vont pas comprendre, donc on va rajouter une couche sur une idée reçue ou sur une manière de vivre par exemple, et voilà on a un documentaire, c'est le Standard Télé par exemple. Standard Télé et nous qui n'avons pas cette antenne, on devrait plus se lâcher. Puisque, bon, il y a des festivals, il y a plein de choses qui autour du film. Et moi, ce que je vois, mais c'est ma propre, ma pauvre culture dans le cinéma, humblement, où je me dis, je comprends pas ce qui se passe. Quand je vois des films, je sais pas de quoi il s'agit. Je sais pas en parler, puisque, alors si moi je suis comme ça, ça veut dire que je suis pas plus idiot ou moins idiot qu'un autre. Ça veut dire qu'une grande majorité qui verrait ce genre de film sortirait en disant, je sais pas. Donc il y a des films pour rien.
Mais pour toi, sur le fait de sortir d'un film et de ne pas savoir, ça n'a pas que... Dans certains films, je trouve que ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Parce que pour moi, faire un film, ce n'est pas que lié à la question de savoir.
Oui.
Oui, il y a une auditrice, là, Annette, là, qui m'a envoyé un texto. D'Octavio Paz. Qui a dit chaque lecteur est un autre poète et chaque poème est un autre poème. Voilà.
Merci Annette.
Merci Annette. Très sympathique.
Oui, peut-être que c'est
tout à fait d'accord avec toi.
Je pense à cet amalgame, à cet amas de films qui est peut-être quand on va naïvement voir un film qui va nous parler, par exemple moi qui est plutôt d'origine maghrébine, si on me montre le Nicaragua aujourd'hui, je serais complètement dans un autre monde. Pourtant c'est le même monde, mais j'aurais des difficultés quoi à comprendre où c'est que m'amène le documentariste, le cinéaste, avec ce film. Et si ça me travaille, j'aimerais bien en voir d'autres pour pouvoir au moins commencer à faire un comparatif pour comprendre ce qui m'arrive.
Tu prends 6 réalisateurs, fais le marché aux puces.
Heureusement qu'il y a des poèmes.
Voilà, c'est l'interprétation de chacun. C'est pour ça que tout est fiction en fait.
Le choix de l'auteur, c'est important. Dans
après, c'est ta propre, c'est montrer ta propre réalité avec ton propre ressenti, ta propre culture, ta propre émotion qui va faire que le film, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma. C'est ça qui est intéressant.
Et qu'est-ce qui est important dans le cinéma ?
Eh ben, justement, que les gens montrent un peu plus leur âme, en fait.
C'est-à-dire ?
Déposent leur âme dans ce qu'ils font et non pas, regarder le discours, le beau discours qui va plaire ou qui va déplaire. Aujourd'hui, tu regardes Festival de Cannes, il y a très peu de films qui déplaisent. Il y a peut-être un scandale sur un film, sur 350 films. Ça dérange un petit peu, c'est moustique comme ça, mais c'est tout. Il y a très peu de films qui dérangent.
Un film doit déranger ?
Ben pour moi, oui. Il doit poser des questions ou il doit... ça peut être dans le rêve, ça peut être dans la guerre, dans le combat, dans n'importe quoi. Il doit être sublime. Ou tu fais ça pour faire rêver les gens et que les gens s'identifient à ce qu'ils veulent, en fait. Ou alors, si tu veux démontrer, si tu veux faire une équation d'un documentaire en montrant que les résultats de la colonie, c'est ça, et que les peuples s'en sortent plus parce que les Français sont partis, ou tu peux le faire aussi. Mais il faut être vachement précis. Tu peux pas te permettre, quand tu fais une démonstration... comme certains de nos écrivains qui font systématiquement des démonstrations sur l'émotion, sur le mot, sur... Il ne faut pas se tromper. L'intellectuel qui a... c'est aussi un métier. Un médecin ne doit pas se tromper, un pompier ne doit pas se tromper.
C'est une question de responsabilité, alors.
Voilà, oui, une grande responsabilité de... Et je pense que cette responsabilité, cette déresponsabilisation en fait de tout un ensemble, mais qui touche un peu tous les corps de métier, hein. c'est pas nouveau, ça fait une vingtaine d'années que ça plonge, et ben, met les gens en disant on écarte ça, nous on va reprendre nos vies en main, c'est ce qu'on appelle la liberté. Les gens sont en train de se libérer peu à peu. Et ça, c'est plutôt bien. Puisque les gens qui devraient être responsables de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils amènent ou ne sont plus responsables. Ils parlent entre eux, on voit bien dans les émissions de télé, ils papotent, etc. Les gens sont à côté. Mais les gens, ils continuent, les gens, les peuples continuent à construire, continuent à bâtir, continuent à soigner, continuent à... On peut vivre sans eux.
En tout cas, enfin, oui, c'est... Je ne sais pas si Jean-Marie l'avait une note là. C'est aujourd'hui les gens se sont révoltés contre quoi? C'est une prise de conscience contre l'oppression, contre. Mais derrière ces oppresseurs, le problème de ces films qui ne montrent pas les sources, les foyers où est né le feu, de quoi tout ça est parti. C'est parce qu'aujourd'hui, on est soi-disant dans des pays décolonisés, mais on s'est fait recoloniser par nos propres frères, par nous-mêmes, qui sont simplement l'instrument de ce pouvoir de domination qui restera toujours le colon. Le monde développé, le monde colonisateur d'hier, le monde auquel on n'a pas encore pris conscience, en tout cas dans le monde occidental où la manif qui fait le plus de monde dans les rues aujourd'hui, c'est la cherté de la vie, c'est le pouvoir d'achat. Hier, c'était encore des luttes entre comment on va fabriquer un syndicat pour rentrer dans le bureau de monsieur le PDG. Aujourd'hui, c'est même pas le cas. Aujourd'hui, c'est quand l'usine est terminée que les gens sortent parce qu'ils ont perdu un boulot. Et c'est même pas la question de travail aujourd'hui. Moi, j'ai peur du mot responsabilité. J'utiliserai, par contre, en ce qui nous concerne, nous, dans le métier que tu dis, Yann, tu appelles ça un métier, c'est plutôt la conscience, parce que j'aimerais pas retomber dans, en faisant, par exemple, un premier documentaire dans un schéma de reproduction déjà d'un discours qui me ferait passer pour un type qui est engagé contre tout ça. Non, aujourd'hui on est dans un monde où chacun est libre de ses choix, et moi j'aimerais pas avoir un discours comme ça en faisant un documentaire qui ressemblerait à des choses où c'est moi qui parle, c'est moi qui amène le discours et je montre mon engagement. Le problème, c'est qu'on va nous traiter de militants de l'époque, ici. On ne comprendrait pas le raccourci qu'il y a entre la situation du monde arabe aujourd'hui, qui se révolte et qui n'est pas encore démontré sur quoi ils se sont révoltés, les gens, aujourd'hui, parce qu'ici, on a l'impression de pas avoir compris ce qui se passe à côté de chez nous.
Mais parce qu'ils n'ont pas compris.
Parce que la répression, elle est symbolique. Elle a aussi d'autres, des multiformes. Elle est multiforme. La question du niveau de vie, c'est vrai qu'il pose un problème.
Attention, là, on part sur la politique, on oublie le cinéma, mais c'est lié.
Donc, c'est pas.
Ça mène à tout, quoi.
Ouais, je voulais. Et en fait, ça me rappelait. Après, là, il y a un film que j'ai vu au fil de Tabou, et qui était comme ça, une fiction, là. Genre de romance, hein, je m'en rappelle. Très, très, très ciselé, enfin, au niveau des images, et même le scénario, tout était bien posé, quoi. Très parfait. Le type, il maîtrisait une situation, quoi, un concept. Mais il y avait quelque chose quand même d'intéressant derrière, c'est que, justement, avec le son, mais avec des bribes toutes sensibles, mais vraiment... parce que parfois imperceptible, mais de temps en temps, clac, il arrivait à capter quelque chose de... En tout cas, personnellement, moi j'étais présent à ce moment-là, dans ce qui avait lieu. Et ça me renvoie à notre film, c'est de Jean-François Néplaz, qui l'a fait sur un écrivain italien, là, Rigoni Stern. Même chose, il y a une scène où le type là il est en train de chasser, quoi, et tu entends là le bruissement de la neige, clac, et puis l'atmosphère. Et là, le mariage du son et de l'image, tac, t'ancre dans quelque chose où tu deviens physique, où c'est la physique, et là, il y a quelque chose qui se passe dans une correspondance, quoi. Après, il peut avoir de la poésie, ça peut être de la politique, mais en tout cas, là, il y a quelque chose où t'es raccord avec quelque chose qui se passe en dehors de toi et dans une autre réalité, quoi, voilà. C'est intéressant, quoi. Il y a, j'en cite encore une, c'est Julie Ramaioli, là. Pareil, dans ses expéditions là, aux Comores, là. Il y a des scènes comme ça qui sont voilà, qui te branchent dans la situation, voilà. Voilà. Et après, ben, c'est une porte d'entrée, quoi. Où tu vas à fond dans l'exploration, et puis mais en tout cas il y a quelque chose, c'est le côté humain, moi je trouve important, qui est présent là. Et pour le coup, pour revenir au son et au cinéma, quoi, et voilà. Merci.
Alors on arrive au son, je vous propose une petite pause musicale et on reprendra sur le son au cinéma. Thank you.
retour sur Radio Galère, deuxième partie de l'émission, toujours avec nos invités. Pour commencer la deuxième partie de l'émission, je vais vous lire un petit passage de Croquis étrusques de Laurence, que j'ai trouvé dans un livre, La remontée du temps de Jean-François Neplaz. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce petit texte ? Je monte, manipule. Avant que Bouddha ou Jésus ait commencé de parler, le rossignol chantait. Et bien après que les paroles de Jésus ou de Bouddha seront tombées dans l'oubli, le rossignol continuera de chanter. Point de prêche, ni d'enseignement, ni de commandement ou d'intimidation, juste le chant. Au commencement n'était pas le verbe, mais le pépiement. Alors,
tu nous envoies toujours ça, intéressant, incroyable.
Le bégaiement,
le pépiement.
Notre animal.
Effectivement, le rossignol est un animal.
Qui restera après Jésus et Bouddha alors ?
Ben après notre espèce guerrière. Notre espèce de guerrier, parce que je ne sais pas moi comment est-ce que dans le monde animal, les espèces arrivent quand même à fonctionner jusqu'à ce qu'on les a dominées. Il y a certainement des espèces animales comme les insectes, par exemple, qu'on n'arrivera jamais, ni à les disséminer avec tous nos moyens d'aujourd'hui, ni
coloniser.
Aller s'amener dans des pièges de laboratoire, etc. Moi, cette histoire de nation, pour moi, c'est des laboratoires qui sont complètement aujourd'hui, ils sont en train de.
Ces histoires de quoi ?
Ces histoires de pays. Quand on prétend.
Tu quittes le rossignol, là ?
On est dans l'histoire du cinéma et de l'indépendance.
Et du son.
C'est l'émission. Voilà. Et aujourd'hui, on parle du son. Et qu'est-ce que le son dans le cinéma ? Le cinéma, oui, ça peut donner des leçons en images, hein, mais ce qu'on se pose comme question, jusqu'où peut aller le cinéaste avec son métier, son art, je dirais. C'est un art et une sensibilité. Comment est-ce qu'il peut faire témoigner toutes les choses de l'instant, y compris les sons qui sont... qui s'ajoute à notre ambiance sonore, c'est-à-dire la parole, par la parole et par le chant.
Nous, ce qui est intéressant dans le son au cinéma, c'est que en général, je pense que ça se présente toujours dans ces quatre configurations, le réalisateur choisit son preneur de son en fonction de sa sensibilité, parce que le son est tellement vaste comme exploration, que souvent c'est le, comme tu disais, les bruits de pas sur la neige qui ramène à une certaine réalité de l'endroit, ce que montre pas l'image. L'image va montrer une image de neige enneigée. Tout dépend comment c'est pris, mais comme une belle carte postale. Et le son va faire revenir ou à une réalité ou à une pure fiction. On peut mettre, ce qui est intéressant dans le son, c'est dans des forêts, on peut mettre des cris de crocodiles. Si tu mets des cris de crocodiles dans une forêt, bah les gens vont dire, ils vont même pas te dire c'est bizarre. C'est un environnement que tu leur proposes. Tu vois ? Et c'est pour ça que le son, quand tu essayes de trop coller à la réalité, en fait, donc le rossignol, le chant des oiseaux, etc., c'est comment tu les prends. Tu peux les effacer, tu peux les remettre, tu peux en prendre qu'un, puis en faire 25, comme si c'était une... Donc le son reste quand même quelque chose de très très à part par rapport à l'éclairage et à l'image de tous les chefs opérateurs images, etc. Et le preneur de son qui est en voie de disparition. Là, il faut le signaler. Aujourd'hui, on fait beaucoup de post-production. On a tous les sons en banque de sons, etc. Et donc, tous les sons se ressemblent à peu près dans les films. Ce qui est un peu dommage, d'ailleurs. Parce que chaque micro a sa sensibilité, parce que chaque preneur de son a sa sensibilité. Et maintenant, moi-même, j'ai fait un film pour Stéphane Manzon. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque de temps fait qu'on pioche, même si on les retravaille après. Mais c'est une autre manière de concevoir le son qui n'est pas inintéressante non plus. C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre des sons qui ont été pris, qui sont d'une platitude extraordinaire, sans, et puis en faire quelque chose de très beau. Comme est-ce qu'on ne peut pas faire l'image, par exemple. On ne peut pas prendre une image, si on peut la retravailler, on peut la pixeliser, on peut. Mais la trace qu'il y a sur l'image, alors que le son, tu peux tout faire. Tu peux prendre un son comme ça, le sampler, en faire une note de musique. Il y a une nouvelle dimension qui je trouve intéressante au son, et il faut prendre ce, puisque les preneurs de son des années 80, c'est presque terminé. Ils ont laissé à l'image et au cadreur cette responsabilité-là, du moins à la télé.
C'est quoi les preneurs de son des années 80? C'est par rapport à leur technique, là, leur matériel ou
Ils étaient, pour t'imaginer, à la télévision, les reportages étaient faits avec un cadreur et un preneur de son. Souvent, le preneur de son était le guide du cadreur. Il avait sa petite mixette, son micro, sa perche, et il prenait ses sons. Après, ça vaut ce que ça vaut, c'était son télé. Mais il y avait des très beaux sons, suivant le preneur de son. C'est comme un médecin, c'est comme... Et 90, la bêta cam, fin des années 80, arrive, micro-caméra, et donc le preneur de son, donc c'est des sons témoins, hein, qu'on balance à la télé, en fait, et on dénature presque l'oreille de l'auditeur, en fait. Et après, il y a eu toute la guerre de la compression de son, hein, qui était une guerre à faire, parce qu'à un moment donné, les machines ne pouvaient pas avoir... 30 mètres carrés de disque dur, quoi. Donc il fallait faire de la compression, mais cette compression était faite par des ingénieurs informatiques, et donc encore une fois le son était complètement et donc aujourd'hui on a beaucoup de sons fictionnalisés par, qui est plus pris en compte par des musiciens, par des gens qui bricolent simplement le son, qui est bien aussi, hein, bricolant, mais les preneurs de son un peu...
Ça ouvre en même temps un petit peu, non, le métier du son aussi, c'est plus réservé, c'est comme la vidéo rapport au film, c'est toute la démocratisation des arts,
C'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien, mais c'est une fausse démocratisation. C'est-à-dire que tout le monde
a pris.
Oui, après il y a le problème de la production,
ça, c'est ça c'est de l'ordre du jugement.
Mais si tout le monde peut faire des images et du son, est-ce que tout le monde est capable de faire un scénario, du cinéma, une fiction? C'est tout le problème du truc. Si on a des films, maintenant on fait des films avec des téléphones portables. Moi je veux bien.
Ouais, bon, il y en a eu un maintenant.
Non, mais il y a un festival maintenant.
Des jeunes qui s'intéressent aux films, des gens qui ont envie de faire des films. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus facile pour eux malgré tout.
Oui, mais.
Et même au niveau du son, des gens qui ont pas envie de faire de films, ils n'en feront pas. Hein.
Non, mais d'accord. Mais pour faire. Alors peut-être que je serais un peu de la vieille école qui dirait que il faut se battre pour chaque chose. Et pour donner du cœur à l'ouvrage, et pour connaître cet ouvrage, il faut un peu s'armer de patience, et de, quel que soit, moi j'étais compagnon charpentier, plâtrier, j'ai fait de l'apprentissage pendant 10 ans pour arriver à sortir un arche, ou à à bosser tout seul sur un chantier, à avoir des équipes, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que comme tout le monde a la possibilité de faire, c'est de faire croire aussi que tout le monde peut devenir cinéaste. Alors non. Et la chute est rude quand on s'aperçoit que tout le monde n'est pas... C'est pas aussi simple de faire un film. Il y a toute une étape de... Et il y a des métiers.
Je comprends ton inquiétude quand tu dis que c'est la vieille école qui parle, Yann.
Je suis pas si vieux que ça. Hein,
moi, mais... je ne serais pas contre quelqu'un qui filme avec son téléphone portable, que ce soit dans l'objet de suivre un filage de skateboard, son copain qui fait ses roulades, ou pour faire un film, pourquoi pas. Mais on ne peut pas être exigeant par rapport aux jeunes aujourd'hui qui utilisent très souvent leur portable, leur téléphone, qui devient leur instrument de témoin de l'instant, parce qu'ils ont besoin d'action. Et dans l'action, quand tu n'es pas équipé, même en parlant du documentaire, du réel, est-ce que pour autant, quand tu filmes une action, quand tu filmes le réel, aussi avec un preneur de son, avec une perche qui va reproduire des sons où la caméra n'est pas là pour couvrir tout l'environnement sonore qu'il y a autour? C'est pas toujours le cas. On va aller chercher, on va se débrouiller, ou peut-être par une voix, ou enfin, il y a toujours mille et une manières de reproduire. C'est vrai que le cinéma, il fait partie de tous les outils qu'on a hérités. On a hérité de plumes et des stylos et de feuilles de papier. D'abord, l'origine de l'écriture, c'est l'invention de la terre cuite et après le papier, l'invention du papier. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, avec nos caméras, même les plus sophistiquées au monde, on arriverait à reproduire notre réalité?
Ah non,
c'est toute la question. Mais je suis sûr que le cinéma, par les outils actuels dont on dispose, on va inventer d'autres outils qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin. Ces sentiments, ces trucs. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'exprimer ces sentiments. On doit passer par un psychologue pendant des années, on doit passer par des...
Non, et aujourd'hui...
Et on n'est pas encore capable, avec toute notre intelligence, de reproduire ce qui arrive en nous, ce qui nous arrive.
Aujourd'hui, il y a les blogs sur Internet, c'est quand même une pensée individuelle qui... Alors, moi j'adore cette époque parce qu'il y a des nouveaux outils qui nous sont mis à disposition presque gracieusement, si je peux dire, qui est extraordinaire. Le net, j'aime pas le bonhomme, mais qui parle de révolution en parlant du net, mais il pensait sûrement pas la même chose que ce que je pense, c'est que c'est une réelle révolution dans le fait où c'est 1 milliard de personnes. C'est-à-dire que c'est la planète qui est sur ce domaine-là, de films avec téléphone, des images sur YouTube, de blogs, même sur les langues, sur la connaissance de l'autre par la langue. Ça parle anglais, ça parle arabe, ça parle... Donc ça, c'est ce qui échappe aux grosses industries du film ou de la musique. Ça, c'est certain. Et il y a une grosse bataille sur le net actuellement entre les pays qui veulent verrouiller cette formidable liberté que représente le net contre cette industrie presque insolente dans les pays riches, par exemple. Tu vois les Jeux Olympiques de Londres, c'est insolent. Toutes les valeurs de l'olympisme sont mises plus bas que terre. Mais t'as des blogueurs, t'as des gens qui s'expriment là-dessus, des gens qui sont contre, qui expriment leur... Ça, c'est fabuleux. Et il y a des gens qui font des films là-dessus, prenant ces images et en fictionnalisant avec leur propre interprétation. Donc on rentre effectivement dans une nouvelle ère de moyens de communication, d'expression. Le tout,
c'est pas pareil, communication et expression.
Oui, mais là, c'est les deux. Ça touche les deux, en fait. Et j'aimerais bien, enfin, c'est un souhait que j'aimerais faire partager, si je suis en train de créer une association, de montrer cette voie-là à beaucoup de gamins, quelle que soit leur appartenance à des groupes, leur montrer cet endroit-là où ils peuvent vraiment faire des choses et qu'ils n'ont plus besoin des institutions pour faire des choses. Ça, c'est un truc auquel je crois. Voilà.
Ça fait penser aussi à au début là, ce que racontait Waïb, là, ce que tu avais envoyé, c'était aussi les au début là du cinéma quoi. Bon, les types ils avaient des appareils quoi, c'était une machine et puis ils ont pris ce qu'ils voyaient dans leur environnement immédiat quoi, ils se sont pas posé de questions quoi. Après ça s'est emballé tchouf, et puis moi je vois ça comme une comète et puis donc le noyau il est passé. Maintenant ce qui est intéressant aussi à l'heure actuelle, c'est que tu peux retrouver ces sensations quoi. Tu peux essayer de reproduire ce que tu vois au quotidien d'images sur les écrans de toutes formes, mais aussi avec tous les matériels qui existent à l'heure actuelle quoi. Tu peux essayer de, en fait, dans quelque part dans ta simplicité, voilà, hop, faire cette expérience et après démarrer quelque chose. Bon, que ça te... C'est Fatih qui disait ça tout à l'heure, que si, que ça prenne ou ça prenne pas, mais à un moment donné, il y a aussi la possibilité de trouver. Et je trouve que là, dans ce que laisse la météore là, qui a passé, il y a plein encore de possibilités quoi, voilà. Et puis on peut même mixer alors pour le coup des choses, c'est ça qui est intéressant quoi, aussi cette possibilité de reprendre des images et puis et jouer avec même ces images voilà, parce que maintenant ça fait partie de ton environnement immédiat et puis là tu as encore un autre espace qui t'est ouvert pour faire des expérimentations quoi.
Là, de toute façon on restera systématiquement depuis le début du siècle dans l'expérimentation puisque chaque chose ça part du mouvement brutiste avec des micros des pièges à sonde qui pesaient 200 kilos 300 kilos, c'est des trucs énormes. On est arrivé au synthi, on est arrivé au sampleur, on est arrivé à... Donc, ça touche toutes les convictions, en fait. Chaque être aujourd'hui peut, pour jouer, pour faire son film... je suis sûr que tu dois avoir des films de famille géniaux. Tu vois, on n'est plus avec la caméra 8 mm ou fallait connaître un petit peu. Bon, fallait... Là, tu prends ton truc, tu en fais ce que tu veux. Et je suis sûr que dans les caves, t'as plein de gamins qui font des trucs exceptionnels ou des parents qui font des films exceptionnels. Donc c'est aussi ça qui met un peu à l'index la forme de documentaire qui nous est proposée, qui est une manière un peu désuète, comme les émissions de télé qui nous est proposée, par rapport à la formidable hyper mondialisation de la création, qui est immuable et que on parlait tout à l'heure des peuples indigènes qui ont évolué depuis le temps. Au Vietnam, dans les caves, il y a des ordinateurs, tout le monde est connecté avec le monde. Et ça, c'est plutôt. Ça va être une grande forme, c'est un nouveau combat. Il y a des nouveaux mouvements qui se créent sur le net, qu'on ne verra pas dans la rue. Ça devient désuet maintenant, les petites manifestations qui. Alors maintenant, c'est au niveau du monde.
Oui, tout à fait. Ouais. Tu parles de révolution numérique, on y est. Mais à la base, même le cinéma, c'est quoi? C'est un outil qui était au service de l'observation scientifique et militaire, à la base. On a hérité de cet outil. Aujourd'hui, au nom de la popularisation, de la démocratie, tout ça, mais. C'est vrai qu'on est au tout début de l'utilisation de ces outils. C'est pour ça que tout est bon, moi personnellement. Parce que, en effet, moi, quand je ne vois pas de sociologues, quand je ne vois pas d'historiens, aujourd'hui, qui prennent des positions politiques, ça rebute un peu notre ami Lo. Mais on aimerait bien les voir, ces gens-là. On n'aimerait pas voir que des politiques qui prennent des paroles politiques. On devrait voir aussi ces gens-là dont on a besoin. Je suis sûr qu'ils sont derrière leur écran d'ordinateur. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est là aussi que c'est devenu une source d'information énorme. Et là, on est en train de s'étudier les uns des autres, peut-être. Ça fait peur à certains de se mettre sur Facebook, demain, son copain, son ami, va lui dire, attention, on voit tout sur ta vie. Mais c'est ça, la vie. La démocratie, c'est ça. C'est de pouvoir être transparent entre nous. C'est ça. Mais on n'y arrive pas. Regarde, parce qu'on a deux micros qui passent un moment, et ben on n'est pas dans une attitude normale, donc on se parle, mais on est un peu rigide. Mais si on avait des micros, comme je disais à l'autre tout à l'heure, que notre radio de libre expression investit un peu sur. On serait un peu. Déjà, nous, on est cadavres, on est déjà prisonniers de nos propres corps. Donc, ça, c'est notre première. Force résistante qui s'oppose à notre pouvoir de création. Ensuite, on a tous ces outils qui nous sont donnés et que maladroitement, des fois, on les utilise sans avoir pensé les possibilités énormes.
Mais toi, Walib, les outils, comment tu les utilises? Quand tu fais des images et du son, tu te libères? Le son te libère plus
non,
que
moi, c'est
que tu fais.
La compagnie, puisque bon, on parlait du documentaire, qu'est-ce que ça signifie encore aujourd'hui? Mais pour moi, c'est d'abord prendre le temps. Et le moment où on se filme, c'est un moment, on peut dire, qu'on a choisi par commun accord de le garder, sans en savoir l'utilisation qu'on pourrait en faire. C'est-à-dire que c'est un acte déjà de mutuelle confiance. On est assis, on est vraiment assis, on est ensemble. Le filmeur, le filmé, c'est comme toi, tu essaies de donner le micro à des gamins pour qu'ils puissent en faire quelque chose d'expérimental ou autre, parce que à ce moment-là, moi j'essaie de me donner les moyens à moi d'être vrai à ce moment-là. C'est tout ce que je cherche en essayant de faire des films. Après, et si j'y arrive pas, je serai toujours frustré, donc je ferai pas de films. Mais si j'y arrive, je le ferai.
Et ce qui est compliqué aussi dans le fait de. Moi je suis pas réalisateur, hein. J'essaie humblement d'écrire un roman, mais qu'est-ce que ça devient après? En fait, le gros problème, beaucoup de gens sont très sincères par rapport à leur propre culture, et leur propre, même si politiquement on n'est pas forcément d'accord, ça a plus d'importance. Ça. C'est la sincérité avec laquelle tu fais ton documentaire et ta vision des choses. Or, ce qui échappe souvent après, c'est ce qui se passe après, la production, la diffusion, les plein de gens qui parlent de ton film ou qui te lancent sur d'autres projets parce qu'ils ont trouvé bien, etc. Et c'est cette en fait le documentaire, c'est un instant. Le documentaire, hein, non fictionnalisé, c'est un instant. On a bien vu dans les révolutions arabes ou en Égypte, beaucoup d'images venaient de portables, de gens qui étaient... Donc ce sont les nouveaux journalistes de la planète qui vont où l'AFP...
Les nouveaux acteurs de la planète.
Oui, mais des vrais journalistes, les journalistes de leur propre vie, en fait. C'est bientôt eux qui vont raconter leur propre histoire. Est-ce qu'il s'y passe? Et pour le coup, là, on revient à une... Alors, attention, c'est comment... Si tu, l'image est prise sur l'instant, avec le son, hein, dans une guerre, dans quelque chose d'incroyable, et c'est comment est rediffusée ces images. Où là, t'as un réalisateur et t'as une scénarisation de la dramatique, en fait, qui va se développer devant les yeux de 20 millions de personnes, devant l'écran de télé. C'est tout là le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se développe sur le net des vraies télévisions qui prennent ces instants-là. Et donc, ça devient intéressant, parce qu'on peut le faire... on peut développer un blog, développer des podcasts, de la radio, etc. Développer des télévisions en direct, en live. Là, on pourrait tout à fait s'imaginer qu'on est sur net et qu'on parle et qu'on a préparé l'émission et qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, 100, 200, 300 personnes, on en est 1000, 2000, 3000. Et qu'on discute avec les gens. C'est ça. Parce que, en fait, est-ce que c'est intéressant ce qu'on dit? Je ne sais pas.
En tout cas, les gars, vous n'avez pas répondu à ma citation. C'est intéressant, mais hein, Bouddha, l'oiseau, ça ne vous a pas parlé, non?
Bah si, moi j'ai parlé du rossignol.
Ouais, tu as parlé du rossignol. Ouais.
Vas-y, reprends l'extrait.
Je vous la relis alors, hein?
Allez, vas-y.
Allez, on se la refait. Attention. Avant que Bouddha ou Jésus ait commencé de parler, le rossignol chantait. Et bien après que les paroles de Jésus ou de Bouddha seront tombées dans l'oubli, le rossignol continuera de chanter. Point de prêche, ni d'enseignement, ni de commandement ou d'intimidation. Juste le chant. Au commencement n'était pas le verbe, mais le pépiment.
Voilà. Alors déjà, Bouddha et Jésus, c'est marrant de faire ces deux... de mettre Bouddha et Jésus sur un même
pied. Si le troisième n'existait pas.
Voilà, et déjà, puis... voilà.
Momo. Momo n'était pas là.
Non, mais parce que déjà...
Laurence a oublié Momo. On en revient à la première partie.
Déjà, ce n'est pas du tout le même... parce qu'on dit que le bouddhisme n'est pas une religion. Mais,
C'est clair que là, il y a erreur. Mais moi, je retiens la dernière phrase, on va dire, pour ne pas rester sur Bouddha et Jésus. Là. C'est quand il dit « Au commencement n'était pas le verbe, mais le pépiement ». Et pour moi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le langage, sur la parole.
On ne sait pas ce que
donc le son. Jusqu'à maintenant, on est en plein sur la parole, qui est une nouvelle parole qui nous aide. Pour apprendre, on veut à tout prix, si on prend la parole et l'écoute. Quand un professeur raconte une histoire, on est à l'écoute, on se dit bon, c'est bien ou c'est pas bien.
Et on lui donne le temps de...
Mais comment on dit c'est bien ou c'est pas bien? Comment un gamin s'exprime quand il dit c'est bien ou c'est pas bien?
C'est le règlement.
Il doit se conformer au règlement, c'est-à-dire...
Il faut se taire jusqu'à ce que le prof ait fini, il faut lever le doigt.
Voilà, ça, et c'est comme ça qu'on apprend le
comment
tu dis le pied-piedement.
Oui, le pied-piedement.
On ne sait pas si c'est des mots ou si c'est des verbes.
Non,
le rossignol,
le rossignol, c'est ni des mots ni des verbes, c'est du bruit. Et c'est ça que moi je comprends.
C'est le bruit d'environnement.
Il parle du bruit, quoi, que c'est pas. Verbe, c'est la parole, c'est le langage, c'est la compréhension.
Oui,
mais le son, c'est pas que ça, dans le cinéma. On se trompe souvent sur le fait d'associer le son à la parole, quoi. Le son, ce n'est pas la parole, peut-être.
C'est une parole.
Ou ce n'est pas la parole, peut-être.
Ah, bah, c'est comme l'écriture n'est pas la parole.
Le bruit, c'est pas une parole.
Le son de la voix, c'est un bruit, t'es d'accord?
C'est du sens avant.
Ce que veut dire l'eau par là, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus de films qui recommencent à être faits sans aucune parole et qu'avec le bruit de l'environnement, les sons qui sont extérieurs et pas de parole réellement. Après, toi comme en tant que preneur de son, ouais, tu te dis
le
plutôt...
Le non-son, c'est du son aussi. Ça produit quelque chose. en nous, même quand il n'est pas sonore. Mais ça,
c'est pas le silence.
Je suis sûr que pas pour nous qui disposons d'une paire de caméras. On est équipé en vérité de deux paires, une paire de caméras. Mais finalement, peut-être on voit moins qu'un aveugle, très souvent. Parce que tu te rappelles ce que nous avons dit.
Tu penses qu'on entend mieux qu'un sourd?
On n'entend pas bien, on l'utilise pas. On l'utilise à un tiers, peut-être à un quart de ce que un sourd, un muet utilise en capacité auditive. Donc on n'est pas tous aux mêmes dispositions sensorielles. Parce qu'on n'utilise pas nos sens. Il y en a qui n'utilisent pas le toucher, ils ne touchent jamais l'autre. Moi, j'aime bien, dans ma culture, toucher aussi. Est-ce que le toucher... le toucher aussi, il fait partie de notre leçon. Hein? Il a un son. Le toucher, il peut avoir un son. Ça nous donne une information sur la surface, si elle est rugueuse ou lisse. C'est scientifique, hein, à la base. L'observation, c'est pas que ce qu'on voit. Des fois, c'est l'invisible. C'est l'invisible
qu'on
devrait rendre visible. Et c'est là.
Au début, là, cette histoire.
L'histoire de leçon de cinéma, c'est tout ça en même temps.
C'est le son.
Et le non-son aussi.
Mais c'est le non-son, c'est pas le silence.
C'est le vide. C'est par exemple la question du zéro en mathématiques. Qu'est-ce qu'il fait là, le vide? Qu'est-ce qu'il fait dans l'espace? Il est omniprésent. C'est ce qui fait 99% de l'espace, le vide.
Qu'est-ce qu'on a mis c'est aussi au début, là, les images étaient sans son. Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, où le parlant est arrivé.
Quand on a remis le son, le type de son déjà qu'on a mis sur plaqué sur les images, voilà.
C'était plus tard. C'est pas parce qu'on ne disposait pas de l'outil, il existait, sauf que bon, il n'était pas encore, par peur que ce cinéma dérange.
C'était la même bataille que la compression de son. Le muet et le parlant, c'était la même bataille. Les années 80, que la compression de son. Et on est arrivé à une excellence dans la reproduction des sons par divers mouvements. Hein, l'expérimental, la musique expérimentale.
Explique, Yann, la compression, ce que tu veux dire.
La compression de son, c'est qu'au lieu d'avoir des sons d'un gigabit en stéréo, maintenant c'est 700 mégas. En divers standards, en wave, en MP3.
Ce qui fait qu'on perd la qualité originale de l'enregistrement.
Tout à fait, mais je suis fasciné aujourd'hui. Alors j'avais cette idée reçue que toutes les années 90, quand ma fille avait MP3, etc., 2000, c'était très mauvais le son. Hein, sur les MP3 très linéaires, quand on le mettait sur une chaîne IFI, ça faisait à peine bouger les boomers. Et c'était aussi le même passage du disque vinylique au numérique, au laser. Le laser était complètement numérique, ça modulait, ça bougeait, il y avait du volume. Donc là, c'était le début aussi du numérique où on se trompait de compression, en fait, puisqu'on tasse normalement les aigus et les ultrasons, les infrasons déjà, et puis on rentre le son dans une boîte et dans ces mêmes fréquences on étalonne ces fréquences pour que tout rentre, quoi. Voilà, ça, la compression de son, en fait. Mais aujourd'hui il y a eu une grande avancée avec des sons compressés de manière assez bonne, puisque les sons wave, qui sont quand même des sons compressés, mais à très faible compression, c'est un un encodage particulier, je suppose, je ne suis pas informaticien, mais ça c'est les informaticiens qui ont mis ça en place. Et j'ai trouvé que c'était de très bonne qualité et que avec un disque dur de 4 gigas ou 5 gigas, tu faisais un film en son. Tu faisais toute une bande son.
Alors qu'à l'époque, il fallait combien pour tout un film?
Pour tout un film, il fallait 36 bandes de 20 minutes en analogique. Il fallait des bandes magnétiques 16 ou 35 pour retransposer le son, alors que maintenant, t'importes, t'exportes. Il fallait des grosses machines en post-production cinéma avec des grosses tables de montage 16-35, des amplis de partout. Et aujourd'hui, tu peux tout mettre ça dans un portable.
Oui, oui. Voilà. Le futurologue appelle ça la dématérialisation du matériel. C'est voilà. ce qui faisait l'équivalent de la taille de cette friche, là où on est ce soir. C'est, aujourd'hui, c'est un téléphone portable.
Voilà.
Ce que pouvait être la machine il y a à peine 60 ans, 50 ans même.
Mais après, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et c'est à nous, aux générations, à tout le monde.
Il faut en profiter à fond, il faut utiliser ces outils, il faut les utiliser, les maîtriser, les doctrines, enfin, je ne sais pas, mais il faut tout faire, il faut expérimenter. Voilà. On est toujours en expérimentation.
Parce que dans tous les siècles, l'expérimentation n'a jamais arrêté. En fait.
Restons indépendants et, je dirais, autonomes dans nos pratiques. Parce que après, moi, s'il y a un engagement, ce serait ça, c'est l'autre. Prétend à l'autonomie. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, c'est parce que c'est sa conscience qui...
Alors moi, la question que je poserais plutôt, est-ce que la
dernière question de la soirée
de ce nouveau savoir, par le biais du net ou par... est-ce que c'est une culture qui se prend et qui s'apprend donc de manière totalement autonome ?
Naturellement.
Et sans institution, sans cours, sans récréation, parce que t'en as pris trop la tête. Non, aujourd'hui, moi, une petite persuasion qui me dit que tout être aujourd'hui, et ça, c'est un peu les thèmes chers à Confucius, tout être peut aller... donc c'est le libre arbitre, peut aller vers sa propre connaissance. Aujourd'hui, si on donne ou on apprend, parce qu'on les connaît, est-ce qu'on les connaît réellement, les mots-clés pour aller à l'information, parce que le net c'est ça, c'est connaître les mots-clés pour aller à l'information, est-ce que en donnant juste les mots-clés à tout citoyen normal, sans... que nous sommes, en fait, est-ce qu'il peut apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, les mathématiques, le cinéma, etc.
Ouais. On n'est pas obligé de tout savoir. Hein. Le premier savoir.
Non, mais c'est le libre arbitre. Si quelqu'un veut passer un concours, et moi j'en suis persuadé, qui sort de cinquième, peut à travers le net reprendre un niveau.
Léger, ça peut faciliter énormément le parcours que lui, il aura à décider.
Après, faut pas oublier l'humain. Pour... Vous m'entendez? Non? D'accord, vous m'entendez pas. Bon. Bon, voilà, l'émission touche à sa fin. On aura un petit peu foiré sur la fin, c'est pas grave. Je voulais remercier les invités, Fateh, Yann, Jean-Marie, Wahib. On a essayé de parler un peu de quoi, on a essayé de parler du son. On s'est fait une petite leçon. C'est le mois d'août à Marseille. Il est 23h bientôt. Il fait chaud. Plein de gens sont en vacances. On vous souhaite un bon mois d'août. On se revoit en septembre. Le premier lundi de septembre pour une émission en quête d'un cinéma. On continue avec Aaron Sievers qui sera notre invité avec d'autres invités surprises.
bon mois d'août, écoutez Radio Galère 88.4, venez au festival de Radio Galère le 2 et 3 septembre à La Friche. Prix libre, ça c'est bien parce que la culture payante, elle est toujours dominante et ça c'est chiant. Donc venez le 2 et 3 septembre à Radio Galère, festival où on croit, on espère et on verra. Bonne soirée.
Listen to my song.